Saints et sanctuaires. Anne Bernet.
Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Mgr Christophe Dufour, archevêque d'Aix-en-Provence, qui nous fait l'honneur de participer à cette émission autour de Notre-Dame, de la figure de l'abbé Guérin et de la vie de l'Église. Bonjour Mgr.
Bonjour.
Merci d'abord du fond du cœur d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes, je l'ai dit à l'instant, l'archevêque d'Aix-en-Provence depuis 2010. Vous étiez auparavant l'évêque de Limoges. Vous avez choisi une belle devise épiscopale, que tous soient un. Pouvez-vous nous dire ce qu'elle signifie et quelle importance revêt à vos yeux cette unité chrétienne ?
Eh bien, c'est d'abord la prière du Christ, que tous soient un. Et je suis très sensible au chapitre 17 de Saint Jean. Et puis il est vrai que depuis tout jeune, je suis très sensible, aux questions de la paix, questions de la communion. Quand j'étais au séminaire, j'avais suivi une session sur la non-violence. J'ai fait mon mémoire de maîtrise de théologie sur le pasteur face à la contradiction et ses de discernement à partir des exercices de Saint-Ignace de Loyola. Voilà, donc j'ai toujours été très, très marqué par cette prière du Christ. Et il ajoute « afin que le monde croit ». Et c'est vrai que j'ai constaté que là où il y a un conflit dans une paroisse, là où il y a la désunion dans une équipe, eh bien, les premiers à quitter la communauté ou la paroisse, ce sont les jeunes et les plus pauvres, quoi. Donc, je crois vraiment qu'il y a aussi aujourd'hui un enjeu missionnaire pour vraiment dans cet appel à l'unité que réclame le Christ.
C'est une belle ambition, Mgr, peut-être plus difficile à mettre en œuvre, hélas, dans la vie quotidienne.
Oui, c'est vrai que ce n'est pas facile. Enfin, je veux dire, nous savons que c'est le travail de l'Esprit-Saint. Le Christ prie aujourd'hui son Père d'envoyer l'Esprit-Saint pour qu'il répare ce qui est cassé, qu'il unisse ce qui est désuni. Voilà, je pense que c'est vraiment notre acte de foi fondamental que l'Esprit-Saint travaille à la paix au sein de nos communautés. C'est le cadeau du Christ, c'est le premier salut qu'il a fait à ses apôtres quand il est ressuscité. La paix soit avec vous.
Mgr, vous avez été ordonné en 1975. Vous avez passé une grande partie de votre ministère à vous occuper des jeunes. Vous avez été aumônier de collège, puis de lycée, puis d'université. Vous vous êtes aussi beaucoup consacré au scoutisme. Vous attachez, vous l'avez rappelé à l'instant, une importance particulière à la jeunesse. Vous vous êtes beaucoup investi dans la préparation des JMJ. Cet apostolat auprès des jeunes aujourd'hui, que signifie-t-il ?
Bon, tout d'abord, c'est vrai, j'ai eu la chance, par mon évêque, qui a permis que je sois pendant exactement 19 années, quasiment à temps plein, au service des jeunes. D'abord à Dunkerque, au service des collèges et lycées, ensuite à l'aumônerie des étudiants, et en même temps à l'équipe nationale des scouts de France. Donc c'est vrai que j'ai eu ce bonheur-là dans ma vie de prêtre. Personnellement, après ça, j'ai été curé de paroisse et j'aurais aimé l'être encore, car je crois que la paroisse est le lieu d'évangélisation et de formation de la vie chrétienne par excellence. Mais il me semble aussi aujourd'hui que l'Église doit retrouver sa vocation d'éducatrice. Vous voyez, je pense aujourd'hui que notre monde ne va pas très bien, beaucoup d'enfants et jeunes grandissent sans repères, dans une société qui les appelle à consommer, qui est remplie d'idoles, qui les expose à de nombreuses tentations. Eh bien, il y a vraiment un grand, grand, grand travail d'éducation, voilà. Et l'évangélisation passe par ce travail patient d'éducation. Et évidemment, je pense que l'évangélisation aussi contribue à éduquer, c'est-à-dire les repères que donne la foi chrétienne, les repères que donne le Christ, la suite du Christ, suivre le Christ, voilà le bon repère que nous pouvons donner aux jeunes aussi. Voilà, je pense que je suis encore aujourd'hui, j'ai donné deux priorités missionnaires au diocèse. La première, ce sont les jeunes générations. Et ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, faut aussi ne pas seulement travailler auprès des jeunes, mais aussi dans les familles. Voilà. Et que nous avons la chance d'avoir dans notre diocèse 20 000 enfants et jeunes scolarisés dans les établissements catholiques. eh bien, c'est un lieu d'éducation majeur, une institution majeure de notre Église aujourd'hui en France.
Vous parlez, Monseigneur, des jeunes issus de familles catholiques, mais y a-t-il un effort à faire pour aller vers ceux qui sortent de milieux déchristianisés ou jamais christianisés ?
Bon, je pense que, évidemment, hein, et je pense que là où il y a des jeunes chrétiens, hein, des jeunes chrétiens témoins du Christ, eh bien, ce sont ces jeunes-là qui iront vers les autres. Hein, et on le voit très fort au niveau des jeunes adultes aujourd'hui. Je crois qu'on a une génération de chrétiens, de jeunes chrétiens qui ont autour de 20-30 ans, là, qui sont audacieux, hein, qui sont audacieux. Et qui osent être vraiment témoins explicites de leur foi chrétienne. Et j'ai eu la joie de baptiser 9 jeunes adultes à la nuit de Pâques à la cathédrale, hein, donc, dont la moitié venait de l'aumônerie des étudiants. Eh bien, il y a là, je crois, des jeunes chrétiens qui osent être témoins explicites du Christ autour d'eux et qui en témoignent par toute leur vie et par leur engagement chrétien. Et ceux-là, c'est pas l'évêque qui est missionnaire auprès de ces jeunes non-chrétiens, ce sont des jeunes chrétiens qui sont missionnaires auprès des jeunes chrétiens. Et je crois que une génération de catholiques là qui est en train de naître et qui sera beaucoup plus missionnaire que ceux de ma génération, disons. Voilà.
C'est donc un grand signe d'espérance, Monseigneur.
Ah, mais alors là, vous savez, c'était le dernier mot de l'homélie à mon ordination épiscopale, hein, par Monseigneur de Foix. Il m'a dit, Christophe, sois un évêque d'espérance. Eh bien, je pense que j'ai cette grâce-là de pouvoir vraiment témoigner de l'espérance. Je dis souvent, nous sommes une jeune Église et il nous faut avoir cet esprit-là, c'est tout un état d'esprit de nous dire, nous sommes encore au début de l'Église. Dieu fait naître et renaître sans cesse l'Église. Et je cite souvent Alexandre Nène, qui était un prêtre russe converti au judaïsme, et qui disait, le christianisme ne fait que commencer. Hein, et c'était il y a 40 ans qu'il disait ça. Donc il ne fait que commencer. Je pense que nous devons être dans cet état d'esprit que l'Église est toujours, toujours, toujours en train de naître, car Dieu l'a fait naître encore aujourd'hui.
J'aime bien ce que vous dites, Monseigneur, car on nous reproche si souvent d'être une vieille machine de 2000 et quelques années.
Voilà.
Monseigneur, au sein de l'épiscopat français, vous vous êtes plus spécialement occupé de la catéchèse, nous retrouvons là encore votre souci de la jeunesse, mais pas seulement. Pourriez-vous nous parler de cette transmission si nécessaire de la foi et des moyens employés pour cela ?
Alors c'est vrai que pendant 6 années, j'ai été président de la commission pour la catéchèse à la conférence des évêques de France, et ça m'a passionné. C'est vrai que j'ai toujours été passionné par la transmission de la foi, et je pense que le cardinal Billet, 4 ans après la lettre des évêques aux catholiques de France proposer la foi dans la société actuelle, cardinal Billet, qui présidait la conférence des évêques, j'étais jeune, tout à fait jeune évêque, c'était ma première assemblée en l'an 2000, et il a ouvert le chantier de la catéchèse. Hein, et du coup, j'ai depuis ce moment-là beaucoup, beaucoup travaillé ce sujet, et je résume un petit peu la situation en disant aujourd'hui, bon, les jeunes ne naissent plus chrétiens, hein, et même s'ils sont nés dans une famille catholique, ils sont exposés à la sécularisation. Et nous avons même changé de monde au niveau de la société, enfin, les repères ont disparu, une espèce de confusion généralisée. Et donc la transmission de la foi par héritage ne suffit plus. Et aujourd'hui, nous sommes obligés de reprendre la transmission de la foi par initiation, comme on l'a fait dans les jeunes églises, là où on passe de la non-foi à la foi chrétienne, eh bien, il y a tout un processus initiatique à mettre en place. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'essayer de faire ce travail. Voilà. Ça ne veut pas dire que l'héritage ne doit pas être fait, mais en même temps, il est important de... C'est un petit peu ce que l'on fait pour les catéchumènes adultes. Hein. Il y a vraiment un travail initiatique qui passe par des apprentissages fondamentaux. Des apprentissages fondamentaux. Si on ne fait pas ces apprentissages fondamentaux, le christianisme restera un petit vernis, hein, et qui va aujourd'hui disparaître très très vite. Le premier apprentissage fondamental, c'est la prière. Le deuxième apprentissage fondamental, c'est d'entrer dans la liturgie de l'Église. Un troisième apprentissage fondamental, c'est la mémoire, c'est de mémoriser. Un quatrième apprentissage fondamental, c'est d'apprendre à raisonner, à comprendre le contenu de la foi. Et puis, c'est vivre en chrétien, c'est vivre en chrétien. Mais avant tout, c'est la rencontre du Christ, une rencontre vivante du Christ. Vraiment, il y a beaucoup de catholiques qui n'ont pas fait véritablement la rencontre du Christ. C'est ce que dit le pape dans La joie de l'Évangile. La joie de l'Évangile, c'est la joie de ceux qui ont rencontré Jésus-Christ vivant, ressuscité. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, cette transmission de la foi, elle passe par ces apprentissages fondamentaux, et en particulier celui de la prière, de l'intériorité, de la rencontre du Christ vivant. Et les jeunes sont très sensibles à cela. Je me souviens, c'était cette année, 2017, 500 collégiens de 6e, 3e à Lourdes, une heure devant le Saint-Sacrement dans la basilique du Rosaire. Je peux vous dire que moi qui suis prêtre depuis plus de 40 ans, je n'avais jamais vu cela. Voilà quelque chose qui est nouveau. Les jeunes ont soif de cette intériorité, de ce silence, de cette relation au Christ vivant. Et quand on leur fait faire cette expérience, eh bien, ils répondent. Voilà, ils répondent. Ils ont du répondant.
Est-ce que dans cette démarche, Monseigneur, cette découverte du Christ, cet apprentissage de la prière, la dévotion mariale ne tient pas justement une place prépondérante? Vous avez décrit dans l'une de vos homélies Notre-Dame comme la championne du monde de la foi. En quoi peut-elle nous aider à réévangéliser notre société?
Ah, vous touchez un sujet qui me tient très à cœur, et je dis souvent aux jeunes et même aux prêtres, je n'ai jamais autant prié Marie que depuis que je suis évêque. Car l'évêque dans l'Église, il est en première ligne de toutes les missions impossibles. En première ligne de toutes les missions impossibles. Et pour moi, voilà, c'est ça le message fondamental de Marie, c'est son oui à l'impossible. Quand je rencontre les confirmants, notamment juste avant la célébration de la confirmation, pour les préparer justement à entrer dans le mystère qu'ils vont vivre, eh bien je leur raconte Marie. Je leur raconte la rencontre avec l'ange Gabriel. Et quand l'ange Gabriel vient annoncer à Marie qu'elle serait la mère de Dieu, la mère du Fils de Dieu, la mère du Fils du Très-Haut, bien sûr, c'était écrit dans le Premier Testament. Les prophètes l'avaient annoncé. Donc Marie avait la foi que Dieu ferait cela un jour. Elle y croyait. Elle croyait que Dieu répondrait à la prière du prophète Isaïe qui disait « Ah, si tu déchirais les cieux, si tu venais sur la terre, ça irait quand même beaucoup mieux, sacré bon Dieu !» Marie, elle a quand même dit « C'est une chose impossible ». Elle avait conscience que cela était impossible. Et elle a posé la question « Comment cela va-t-il se faire ? À vue humaine, c'est impossible !» Et l'ange a répondu « L'Esprit Saint viendra sur toi, rien n'est impossible à Dieu. » Voilà. Eh bien, Marie a dit oui à l'impossible, elle a dit oui à la promesse de Dieu, à la promesse de l'Esprit Saint. Mais je suis sûr que quand les apôtres étaient réunis au Cénacle après l'Ascension, qu'ils étaient complètement perdus, le Christ leur avait dit « Allez évangéliser toutes les nations jusqu'aux extrémités de la terre ». Ils avaient peur, parce que voilà, ils avaient très très peur. Et c'est Marie qui est venue leur dire « Souvenez-vous ce qu'il vous a dit, l'Esprit Saint viendra sur vous ». Eh bien voilà, je crois que la clé de la nouvelle évangélisation, elle est là. De reprendre ce « oui » de Marie, elle est championne du monde de la foi, mais elle est surtout mère de la foi. Je la prie souvent comme mère de la foi, pour qu'elle protège, pour qu'elle veille sur la foi de tous ceux qui ont la foi fragile.
C'est un très beau titre de Notre-Dame, mère de la foi et mère de nos âmes. Par conséquent, est-ce la raison pour laquelle vous avez appelé vos fidèles à prendre Marie chez eux, comme le fit l'apôtre Jean après la crucifixion? Et quelle est la portée d'un tel choix et sa nécessité dans nos vies?
Je pense qu'aujourd'hui, la première église, c'est la maison. Nous avons accueilli, Dieu merci, c'est une grâce pour le diocèse d'Aix-en-Provence et Arles, jusqu'ici, 5 communautés religieuses qui viennent d'Afrique, de ces jeunes églises d'Afrique. Et je demande à ces sœurs de faire la visite des familles qui ont célébré le baptême d'un petit bébé, ou bien qui aussi ont après ça inscrit leur enfant au catéchisme, l'éveil à la foi au catéchisme, voilà, quand il y a encore ces petits à la maison, hein, ces petits, ces enfants à la maison, et d'aller rendre visite à ces familles pour aller demander des nouvelles des enfants. Et puis de dire, après, petit à petit, on les a pris voisins, vous êtes une famille chrétienne, ça ne se voit pas dans votre maison, pourquoi vous n'auriez pas une petite statue de Marie ou bien un petit crucifix? Et puis, voilà, et puis petit à petit, de bénir les enfants, et puis petit à petit, bien de prier Marie en famille. Voilà, je pense que si on arrivait dans un diocèse et dans des paroisses à gagner comme ça, on pourrait dire une à une, les familles, en faisant que la maison, chaque maison devienne la maison de Marie, eh bien, on aurait fait un très grand pas, je crois, pour obéir au pape Jean-Paul II, qui nous a appelés à une nouvelle évangélisation. Voilà. Je pense que c'est des petites choses comme celle-là qui peuvent faire avancer beaucoup, 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 réapprivoiser ces jeunes familles. Je dis souvent, c'est pas d'abord l'évangélisation des familles, c'est l'évangélisation en famille.
Vous savez que quand notre abbé Guérin, dont la cause de béatification a été ouverte, est arrivé dans sa paroisse qui était très déchristianisée à l'époque, ce fut justement son premier geste d'offrir une statue de Notre-Dame à chaque famille de la paroisse, et on a vu le résultat. Donc votre initiative est porteuse de grandes espérances une fois encore.
Voilà, ben disons que voilà, c'est encore un pas. Voilà, on fait des petits pas. Vous savez, aujourd'hui, l'Église se transforme tout doucement, comme une petite plante qui pousse. Et voilà, ce que je disais tout à l'heure, je crois, les conditions pour l'évangélisation, enfin les temps aujourd'hui n'ont jamais été si favorables à l'évangélisation. Je témoigne. Hein, je suis évêque depuis 17 ans et je suis prêtre depuis 1975. Eh bien, je le dis, jamais les temps n'ont été aussi favorables pour annoncer le Christ au Jésus vivant.
Ça fait plaisir, Monseigneur, d'entendre un évêque optimiste. Est-ce que s'inspirer de Saint Jean, l'évangéliste de l'Eucharistie, à son exemple, prendre Notre-Dame chez soi, n'est pas un moyen excellent, justement, d'entrer dans le mystère du corps et du sang du Christ? Pourriez-vous, dans ces conditions, Monseigneur, vous avez dit avoir été touché récemment par ces adolescents qui priaient devant le Saint-Sacrement, pourriez-vous nous dire quelques mots, justement, du respect qui lui est dû et de la messe?
Oui, bon, c'est vrai, hein. Je pense qu'il n'y aura pas de véritable renouveau de l'Église, du moins un renouveau durable de l'Église en France, sans le renouveau de l'Eucharistie du dimanche. Le renouveau du dimanche et le renouveau de ce rendez-vous du dimanche avec le Christ dans le Saint-Sacrement. Et donc il faut trouver des chemins aujourd'hui pour conduire les jeunes générations ou ceux qui ne sont pas des familiers de notre Église, de les conduire à l'Eucharistie. Et il faut un chemin. Ça peut pas être, c'est un pas immense. Rappelons-nous que les catéchumènes dans l'Église primitive, on ne les conduisait pas d'abord à l'Eucharistie, on les conduisait d'abord à la parole du Christ, à la parole de Dieu dans la Bible. Mais pour, entrer dans le mystère de l'Eucharistie, j'aime beaucoup cette expression du pape Jean-Paul II qui disait « L'admiration passe avant l'adoration. » C'est l'admiration qui conduit à l'adoration. Et je trouve ça très beau. C'est-à-dire, on va pas dire adorer, 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 adorer. On va d'abord dire admirer, admirer, admirer. Le mystère d'amour que nous contemplons dans Jésus, homme vivant au milieu des hommes, et qui va livrer sa vie pour nous sur la croix. Commençons par admirer, admirer la beauté de ce mystère d'amour. Voilà, émerveillons-nous de ce mystère, et je pense que c'est à partir de ce moment-là, quand nous nous mettons devant le Saint-Sacrement, eh bien, nous admirons, voilà, nous admirons, et nous nous offrons dans le Christ, nous nous offrons dans le Christ, nous offrons en lui, par lui, avec lui, et on dit au Seigneur, ben, prends ma vie, je te reçois, et prends aussi ma vie avec toi. Voilà, je pense que j'aime beaucoup cette expression donc de Jean-Paul II, et je crois que c'est le chemin sur lequel nous devons conduire les enfants et les jeunes et les familles pour les conduire au mystère du Christ dans l'Eucharistie.
Et là encore, qui mieux que Marie peut nous enseigner à admirer les œuvres de son Fils ?
Oui, voilà, oui, c'est exactement cela.
Justement, pour en revenir à Notre-Dame, vous possédez, Monseigneur, dans votre diocèse, un sanctuaire extrêmement célèbre, les Saintes Maries de la Mer. Mais ce que l'on sait beaucoup plus rarement, moi-même je l'ignorais, c'est que son véritable nom est Notre-Dame de la Mer et qu'elle est consacrée à la Sainte Vierge. Pourriez-vous nous parler un peu de cette histoire, peut-être pas aussi légendaire qu'on ne sait plus à le dire, et nous parler de l'importance de la dévotion mariale en Provence ?
Alors, avant de vous parler de la dévotion mariale en Provence, il faut quand même que je parle des Saintes Maries, car il s'agit de Sainte Marie Jacobée, mère de l'apôtre Jacques le Mineur, et il s'agit de Sainte Marie Salomé, femme de Zébédée et mère des apôtres Jacques et Jean. Voilà. Nous n'avons aucun témoignage oculaire de leur arrivée en Provence, mais sachant que la ville d'Arles, à deux pas de là, était la petite Rome résidence impériale, sachant que Sainte-Marie de la Mer était à l'époque un grand port, nous avons retrouvé 30 bateaux coulés au large de Sainte-Marie de la Mer, eh bien, il ne serait pas étonnant que des chrétiens, et pourquoi pas ces deux femmes, avec Marie-Madeleine, avec Sainte-Marthe, avec Lazare, c'est-à-dire tous ceux qui avaient été chassés par les persécutions de Jérusalem, soient venus dans cette grande ville d'Arles, et donc aussi cette vallée du Rhône qui les conduisait jusqu'à Lyon. Donc c'était vraisemblable, disons, on ne peut pas le prouver. Et qu'est-ce qui est beau dans ce message ? C'est qu'elles sont témoins de la résurrection. Voilà. Nous avons là les témoins de la résurrection. L'évangile du Christ vivant ressuscité est arrivé en Provence par une barque, dit-on, sans rame ni voile. Mais n'est-ce pas la condition de notre Église encore 2000 ans après ? C'est-à-dire c'est une Église fragile qui vogue sur des eaux pleines de tempêtes et de vent et de souffle contraire de notre société. C'est cette barque, ce sont des femmes sur cette barque fragile qui sont venues porter l'annonce qui est au cœur de notre foi chrétienne, c'est-à-dire la résurrection de Christ Jésus. C'est une histoire absolument magnifique et elles avaient bien sûr la Vierge Marie dans leur cœur puisque c'était avec elle qu'elles étaient au pied de la croix. Et donc le lien avec la Vierge Marie, c'est la croix de Jésus. Elles étaient au pied de la croix et elles sont témoins que le Christ n'est pas resté sur la croix, il n'est pas resté au tombeau, il est vivant et il remplit le cœur de tous ceux qui viennent en pèlerinage au Sainte-Marie de la Mer. Voilà le message des Saintes Maries et voilà le message de Marie à Notre-Dame de la Mer. Voilà.
Mais vous avez d'autres sanctuaires dédiés à Notre-Dame dans la région. Vous avez votre cathédrale à Aix, Notre-Dame de la Cède. Vous avez Notre-Dame de Bourgard à Orgon. Ce sont des sanctuaires moins connus.
Nous n'avons pas un grand sanctuaire comme celui de Notre-Dame de la Garde à Marseille. Et Notre-Dame de Beauregard, que nous essayons de faire revivre, car c'est un pèlerinage qui était très important, mais qui n'est aujourd'hui, ce n'est pas une basilique, c'est une petite église, mais qui a eu un grand rayonnement du XIXe siècle, et notamment après ça, au milieu de la culture provençale. Mais aujourd'hui, chaque premier vendredi du mois, je vais faire mon pèlerinage pour demander des prêtres. Voilà, c'est le pèlerinage de l'évêque qui emmène tous les mois un groupe pour demander des prêtres. Et nous sommes un petit peu exaucés puisque cette année, nous avons 5 rentrées au séminaire, vous voyez. Donc, merci Marie.
Et Monseigneur, vous êtes originaire du Nord, vous nous l'avez rappelé tout à l'heure. Y avait-il là-bas, ou y a-t-il un pèlerinage marial auquel vous étiez plus spécialement attaché et dont vous aimeriez nous parler ?
Alors, moi j'étais un familier de l'abbaye du Mont-des-Cats, qui est aussi dédiée à Notre-Dame. Pour moi, c'était ce lieu-là. Quand je rentre dans le Nord, c'est pas très souvent, mais j'y suis retourné au mois de mai cette année. Je suis allé saluer le père Abbé, qui est un ami. Et voilà, c'est Notre-Dame du Mont-des-Cats qui m'attire, mais qui n'est pas un pèlerinage spécialement marial. Sinon, je suis très attaché au pèlerinage de Lourdes, et je souhaite que le diocèse, que les paroisses du diocèse retournent à Lourdes. Voilà, retournent à Lourdes, car je pense que c'est. Alors, nous avons aussi pas très loin de chez nous Notre-Dame du Lot, hein, qui est aussi un très beau pèlerinage, et il y a de plus en plus de familles qui vont là-haut. Voilà. Mais le Nord commence à être loin. Ça fait 17 ans que je l'ai quitté, et il est loin. Il commence à être loin. Je veux bientôt être plus près de Pontmain que de Lille. Vous voyez.
Je vois, Monseigneur. J'en reviens, puisque nous allons terminer cette émission, j'en reviens un peu à ce que nous avons évoqué au début, ce souci que vous avez de la paix et de l'unité. Après les tragiques événements de l'an passé, vous avez invité à recourir à Notre-Dame, reine de la paix et reine de France. Qu'aimeriez-vous faire, vous, Monseigneur, ou que faites-vous déjà pour que Notre-Dame, reine de France et reine de la paix, puisse nous secourir? En un mot, que peut-on faire pour un renouveau de la dévotion mariale en France?
Alors, bon, pour le diocèse, le 8 décembre 2016, j'ai ouvert une année de prière mariale. Et donc, chaque mois, je donne une intention et je fais une méditation de Marie. Et le 8 décembre 2017, je consacrerai notre église diocésaine, notre diocèse de Provence, au cœur immaculé de Marie, qui est la patronne de notre diocèse, et comme sainte patronne l'Immaculée Conception, donc voilà, que l'on fête le 8 décembre. Et donc, c'est au cœur immaculé de Marie que je consacrerai notre église diocésaine. Et je crois qu'en consacrant l'église, c'est toute une terre que nous consacrons. Et voilà. Et donc, c'est un petit bout de France qui sera consacré au cœur de Marie. Et j'ai vraiment une immense foi en sa prière. Et je vous l'ai dit pour notre église diocésaine, je vous l'ai dit pour les vocations, je vous l'ai dit pour la foi des enfants, et bien je le dis aussi pour notre pays, la France, que Marie veille sur la France, que Marie, mère de notre pays, et bien puisse veiller sur chacune des familles françaises.
En cette année du centenaire de Fatima, Monseigneur, je pense que c'était en effet la plus belle initiative que vous puissiez prendre. Merci infiniment. Je ne doute pas que nos auditeurs auront à cœur de prier pour vos intentions et pour les bénédictions qui tomberont sur votre diocèse. Merci encore, Monseigneur. Bonne journée. Au revoir.